C'est l'émission des lycéens
et des lycéennes.
Émission des lycéennes et des lycéens.
Sur la web radio Bassin Minier.
Sur la web radio du Bassin Minier.
Sur la web radio du Bassin Minier.
Bonjour, aujourd'hui c'est Jonathan, Alex et Mélissa. Nous allons aborder la thématique de la prison.
Pour cela, nous allons vous présenter différents aspects de la prison, notamment certaines activités qui y sont proposées. Nous avons rencontré M. Ambeza, M. Mali, M. Kupka, qui interviennent à la prison d'Arras. C'est une maison d'arrêt. Les personnes qui y sont incarcérées y attendent leur jugement ou purgent une peine de courte durée.
Nous sommes d'abord allés à la rencontre de Michel Kupka, qui est enseignant à la maison d'arrêt, et nous lui avons demandé en quoi consiste son travail.
En quoi consiste votre travail avec les détenus ?
Alors, le travail... Une personne est détenue, il faut bien comprendre qu'une personne détenue, c'est parce que, en fait, personne ne lui a jamais dit non. Elle a toujours pu faire tout ce qu'elle a voulu jusqu'au jour où elle a passé les bornes et donc on l'a incarcérée. Donc mon travail, c'est de bien faire comprendre que on ne peut plus accepter tout et n'importe quoi. Donc c'est de respecter certaines règles. Donc dans la salle de classe, l'objectif, c'est d'abord respecter l'autre, laisser parler l'autre, accepter que l'autre soit là pour une affaire de viol, le deuxième soit là pour une affaire de mœurs ou autre, de drogue, le quatrième pour un meurtre, et puis moi aussi je suis là pour faire en sorte que tout le monde puisse avancer à son niveau. Donc toutes les personnes qui sont inscrites à l'enseignement avancent à leur rythme. Ce n'est pas un cours avec, comme on peut avoir en lycée avec 30 élèves et tout le monde fait la même chose. C'est bien chaque individu qui est pris en charge pour qu'à la fin du cours, cette personne détenue scolarisée sorte avec, en ayant acquis quelque chose, en se rendant compte que ben oui, j'ai appris quelque chose au bout du cours. Et ça, c'est pas du tout évident, parce qu'en fait, on a toujours, mais ça c'est normal, dans tous les milieux fermés, des conflits. Alors des conflits qui sont dits, mais ça c'est assez rare, parce que la salle de classe est quand même un lieu tout à fait particulier, parce que la personne, elle a demandé à venir. Donc d'emblée, moi je lui dis, c'est toi qui as demandé à venir, donc maintenant tu respectes les règles de cet espace, qui sont, voilà, je te donne du travail à faire, si tu comprends pas, tu ne fais pas. Donc on travaille à l'inverse de ce que toi tu fais à l'école. Ce que je veux dire, c'est que quand la personne ne sait pas faire, elle ne met pas des réponses au hasard. C'est fini, ça. Elle dit, je n'ai pas compris comment ça fonctionne, comment ça marche. Et c'est à moi d'expliquer, bien évidemment. Il faut aussi bien comprendre que je prends au maximum 10 personnes détenues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont 10 niveaux. Quand bien même il y en a 2 ou 3 qui savent pas faire une division, je vais pas les prendre ensemble, parce qu'on a un nerveux ici, on a un calme là, on a une personne qui est plus jeune ici ou plus âgée, donc ça peut pas fonctionner. Donc il faut les prendre en individuel, et parfois, de temps en temps, à 2. Là, je suis en train d'essayer de développer en informatique le fait de travailler en binôme. C'est-à-dire qu'en fait, je prends quelqu'un qui a un niveau bac, donc en informatique, pas de problème, avec quelqu'un qui n'a jamais touché l'informatique. Et donc, c'est le détenu de niveau supérieur qui apprend l'informatique à celui qui est de niveau inférieur. Ça, c'est aussi pour essayer de bien montrer que ben, c'est ensemble qu'on peut arriver. Bref, qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres.
Auprès de quelles personnes et dans quelles circonstances intervenez-vous en prison ?
Alors, j'interviens auprès des 230 personnes détenues incarcérées à la maison d'arrêt d'Arras. C'est mon vivier au départ. Ce sont les personnes détenues qui sont majeures. Dès lors qu'elles sont majeures, ce sont à elles de demander à venir à l'unité d'enseignement.
Et pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le milieu carcéral ?
Alors, pourquoi ? Alors, je pense qu'on y arrive toujours par hasard et on y reste toujours par choix. Moi, j'ai toujours travaillé avec des enfants, ouais, c'est ça, des enfants handicapés mentaux, enfin, des enfants à problème. Moi, ça ne m'intéresse pas les gens normaux, c'est clair. Donc là, on a un vivier, on a une cocotte minute dans lequel il y a 230 personnes détenues d'un côté, il y a 60 personnels de surveillance qui surveillent donc ces personnes détenues de l'autre. Puis moi, je me situe en tout seul, parce que je suis seul responsable local d'enseignement, entre ces deux parties-là, et voir comment on peut faire pour faire en sorte, parce que c'est un vrai challenge, faire en sorte de faire vivre ensemble deux opposés, pour les amener, que les personnels de surveillance appellent la personne détenue pour qu'elle vienne apprendre quelques petites choses à l'école.
La justice vous fixe-t-elle des objectifs et avez-vous des objectifs personnels ?
Alors, pour ce qui est de la justice, non, puisque je dépends donc du ministère de l'Éducation nationale et non pas du ministère de la Justice, même si nous avons quelques grandes règles, comme par exemple, combien de personnes voyez-vous, quelles sont les priorités, c'est bien l'illettrisme et les plus bas niveaux de qualification. L'autre priorité, c'est le français, langue étrangère. Nous avons également dans toutes les prisons des gens qui viennent, qui parlent pas un mot de français, qui viennent, en ce moment, à Arras, il y a quoi? Des Afghans, il y a un Indien, il y a un Allemand, il y a deux ou trois Néerlandais. Ça, c'est régulier. Il y a au moins une dizaine de personnes, sans compter quelques Serbes. Enfin, voilà. Donc, ces gens-là sont prioritaires pour venir à l'école. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent rien. Alors, déjà, les textes de loi sont extrêmement difficiles à comprendre. Quand en plus, la personne ne parle pas un mot de français, c'est la double peine, ça c'est clair. Donc il faut les sortir de là très très rapidement, au moins qu'ils sachent comment dire « je veux du pain », enfin voilà, comment se présenter, ça on comprend bien. La préparation au CFG est aussi un des objectifs officiels de l'éducation nationale. Le CFG, le certificat donc de formation générale, qui est donc le premier diplôme de l'éducation nationale. Les objectifs personnels maintenant, oui, j'en ai au moins un qui est donc la création d'un festival de l'écrit avec un concours d'écriture en partenariat avec la fondation du groupe M6 et, je l'espère, avec la fondation SNCF, qui permettrait un petit peu de faire sortir les écrits des personnes détenues et de montrer que une personne détenue scolarisée, c'est pas un vulgaire tolard comme on peut le penser.
Mais tout à l'heure, quand vous parlez qu'il y a des étrangers qui sont à la prison d'Arras, ça veut dire que vous concevez vos cours par rapport aux personnes ou...
Bonne question. dans ces cas-là, le cours est forcément collectif puisqu'il n'y a personne qui parle le français. Donc, peu importe la langue d'origine, on a de la documentation, on a des ouvrages spécifiques, évidemment, de français langue étrangère, donc de cours de français pour les personnes étrangères. Et là, par exemple, on apprend énormément tout ce qui est articulation. Articuler, par exemple, le A, ben, un anglais va, si tu dis A, un anglais va répondre E ou I, mais il dira jamais A du premier coup. Donc ça, c'est des choses qu'il faut à tout prix prendre dès le départ, pour qu'ils puissent se faire comprendre. Parce que très vite, ça risque de tourner en mayonnaise, parce que il va demander quelque chose au surveillant, le surveillant ne va pas le comprendre, il va le rejeter, et donc ça peut occasionner des sacrées frictions. Donc sur les cours de français langue étrangère, en règle générale, ça ne pose aucun souci. Un, la personne détenue, elle se rend compte qu'elle a besoin de parler la langue, sinon la peine, elle la supportera pas. Mais également, le personnel de justice comprend très bien que c'est aussi son intérêt que la personne apprenne le français pour se faire comprendre. Donc c'est du gagnant-gagnant.
À Arras, combien de détenus ont passé à un examen ?
Alors, à Arras, il y a donc deux sessions de certificat de formation générale par an, une en décembre, une en juin. En général, c'est 10 et 10. Il y a, par année scolaire, il y a 20 personnes qui passent un certificat de formation générale. Par ailleurs, il y a aussi du DILF. Le DILF, c'est le diplôme initial de langue française. C'est en fait le premier diplôme pour les personnes étrangères. Par exemple, on te demande, ben, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu as des enfants? Comment s'écrit ton nom? Des petites choses toutes simples, mais c'est le béaba pour que la personne étrangère se débrouille, je dirais, en ville. Donc, et là, il y a deux sessions de quatre, une douzaine de personnes qui passent le diplôme initial de langue française.
Est-ce que cela a permis à des personnes de trouver du travail à la sortie?
Ça, on ne peut jamais le dire. Je veux dire, je ne crois pas que le fait de venir en cours, il faut bien quand même comprendre que la personne, elle vient en cours pour des raisons qui sont multiples. Des exemples, le fait de venir en cours donne des remises de peine supplémentaires. Le fait de venir en cours permet de sortir de la cellule. Je ne sais pas si vous savez, mais je veux dire, dans une cellule, quand on y est de 17h au soir, 16h30, 17h, jusqu'au lendemain matin, 7h30, 8h, bah à 8h, quand j'appelle les personnes détenues scolarisées, elles sortent de la cellule, quoi. Elles éjectent de la cellule, parce que ça fait vraiment un temps phénoménal qu'elles sont enfermées. Et là, mon espace est quand même plus grand, plus clair. Enfin, je veux dire, voilà, c'est accueillant, quoi, c'est clair.
Nous avons poursuivi cette rencontre en l'interrogeant sur le rapport qu'il entretient avec les détenus. Mais est-ce que vous avez un lien fort avec les détenus?
Qu'est-ce que tu appelles lien fort?
Exemple, comme on vous avait parlé, vous avez plutôt tutoyé et pas vous voyez. Généralement, quand on tutoie, ça veut dire qu'il y a un lien un peu affectif.
Ok. Effectivement, je tutoie toutes les personnes détenues scolarisées. Il faut savoir que c'est interdit par la loi. C'est qu'en fait, je le fais, je n'ai pas le droit de le faire. En principe, on doit vouvoyer toutes les personnes détenues. Je tutoie pourquoi? Parce que, en fait, ça, effectivement, ça rapproche les personnes. Ça crée du lien et ça permet aussi, quelque part, de rassurer la personne. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose. Comment dire? On a toujours un peu honte de dire qu'on ne sait pas faire quelque chose. Je veux dire, moi, je n'ai pas peur de dire au détenu qui apprend à lire, de dire, voilà, moi, en mécanique, je suis illettré. Ce que je veux dire, c'est que tu m'ouvres un capot, je ne sais pas, où est-ce qu'on met l'huile, c'est quoi, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Donc, je peux très bien comprendre que toi, tu as des problèmes, pour B à bas, ben, ce n'est pas évident pour toi.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les détenus?
Qu'est-ce que tu appelles des problèmes?
Des insultes, des injures, peut-être même de la violence, je sais pas.
Alors, non, pas. De la violence, non. Ça, c'est clair. La violence, non, mais c'est aussi parce que je commence à être un petit peu connu dans la maison d'arrêt, donc les personnes détenues parlent. Donc, tout le monde sait que j'ai un caractère de cochon, ça c'est clair. Mais c'est obligatoire. C'est pas, comment dire, si où tu rentres dedans, il faut qu'ils comprennent bien que moi j'ai pas peur, quoi. Je veux dire, moi je les prends à 250, ça me pose pas de problème. Mais ça, ils le savent de toute façon. Et c'est vrai. Et les mains dans le dos, hein, attention, moi j'ai touché personne. C'est pas, non, j'ai pas besoin. Donc, et il faut qu'elles comprennent aussi. Alors ça, c'est un truc, c'est extrêmement intéressant. C'est un petit peu comme les bêtes. Je veux dire, bon, moi j'ai peur des chiens, je supporte pas les chiens. Quand il y a un chien quelque part, il va où? Il vient vers moi. On peut être 10, c'est là qu'il va venir. Bon, et c'est un petit peu la même chose en détention. C'est qu'en fait, ils sentent que quand je parle, ça vient pas de là, ça vient d'abord des tripes. C'est-à-dire qu'en fait, je te parle à toi comme si t'étais mon garçon, puisque c'est des hommes, d'accord. Et là, je vois que ça déstabilise dans le cerveau, ça, waouh, au secours, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un enseignant qui parle d'abord avec les tripes, et c'est ça qu'ils demandent, parce que jamais personne ne leur a parlé avec les tripes. C'était, tu fais l'exercice, c'est tout. Non, c'est pas, tu fais, non, surtout si tu comprends pas, tu fais pas, hein. C'est ce que je commence par dire. Tu t'en rends compte? Tu ne fais pas si tu comprends pas. Ça, je connais peu de profs qui le disent comme ça.
Donc du coup, pour vous faire respecter, ça veut dire que vous n'hésitez pas à rentrer dans le tapis. Enfin, ça vient du cœur, quoi. C'est pas.
Tout à fait. J'ai dû le faire cet après-midi, par exemple, où j'avais un groupe de 4 personnes, 19, 20, 22, puis 24 ans, donc des jeunes. Des jeunes qui rentrent là comme si c'était chez eux, quoi. Je veux dire, comme si c'était au café du coin. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, il faut cadrer, quoi. Il faut cadrer, je dirais, durement. J'allais dire de façon presque extrême. Donc moi, je suis obligé de me faire violence, parce que moi, quand je rentre en prison, c'est pas moi, je suis pas la même personne quand je rentre en prison que dehors. C'est pas le même bonhomme. C'est pas possible. Les règles sont différentes. Donc il s'agit de bien restructurer. Donc évidemment, je commence par, ils étaient à quatre, comme ça, ici, les uns à côté des autres. J'en ai mis, toi, tu t'assieds là, toi, tu t'assieds là. Je les ai séparés complètement. J'ai voulu casser tout de suite. Casser le groupe. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire, hein, au départ. Et ensuite, les prendre de façon individuelle. C'est-à-dire pas les prendre à quatre. Bon, bah, tu fais ci, tu fais ça. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, les prendre de façon individuelle en disant, toi, ton niveau, c'est quoi? Tu fais quoi? T'en es où? Ben moi, j'ai fait une sixième, je sais pas bien lire. Là, on peut commencer. D'accord? Mais il faut toujours commencer en positif. Je m'explique. Quand la personne me dit, je sais pas bien lire, je la félicite tout de suite. Pas parce qu'elle ne sait pas lire. Je la félicite d'affirmer, de se pouvoir affirmer qu'elle ne sait pas lire. Et là, tout de suite, le curseur est déplacé. Après, j'en fais ce que je veux.
Pour terminer cet entretien, Michel Krupka nous a confié le regard qu'il porte sur la prison. Que pensez-vous des conditions d'incarcération des détenus ?
Alors, ce que je pense, ça c'est une question qui est... Ça relève en fait des droits de l'homme, puisqu'une personne détenue c'est un être humain. Je pense que les règles européennes stipulent bien qu'il y faut une personne détenue incarcérée par cellule. À Arras, on est à 5, 6, 7 personnes détenues dans la même cellule. Ça veut dire de la promiscuité, ça veut dire des soucis, des problèmes, ça veut dire rien qui va vers la réinsertion. Rien qui va vers la restructuration de la personne, parce qu'en fait, c'est quand même bien ça. Restructurer la personne. Elle est dehors, elle a fait n'importe quoi, on l'enferme, d'accord? Mais l'objectif, c'est quand même bien qu'elle ressorte mieux que quand elle est entrée. Or, en fait, on se rend compte bien souvent que la prison, c'est l'école du crime. Ça, c'est clair. Non pas parce que j'apprends en cours, non, mais il y a tout le reste du temps où là, les personnes détenues sont ensemble, que ce soit en promenade, que ce soit en sport, que ce soit dans la cellule, où là, on ne sait pas trop ce qui s'y passe.
Pour revenir à cette distinction entre la sécurité active et la sécurité passive, si je comprends bien, la sécurité passive est assurée par le personnel pénitentiaire, les autres personnes qui interviennent relevant de la sécurité active. Comment ça se passe dans notre tête quand on franchit la porte de la prison, quand on y vient pour enseigner, quand on ne fait pas partie de ceux qui détiennent les clés des portes, je dirais, pour faire vite.
Deux choses. La première, la sécurité passive, ce sont les murs, ce sont les barreaux, ce sont les clés, ce sont les portes. Ce ne sont jamais des personnels, parce que le personnel de surveillance, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est aussi un élément de sécurité active. Parce qu'il arrive quand même qu'il aide aussi les personnes détenues. Par exemple, lorsque le détenu demande « Est-ce que vous pouvez faire passer le café dans la cellule à côté ?» Bon, il le fera. C'est aussi pour ça que si on supprime ce personnel de surveillance, là, ça va être totalement inhumain. C'est pour ça qu'il vaut mieux parfois un personnel de surveillance dur, mais quand même des relations humaines, même si elles sont dures, plutôt que pas de personnel du tout, où on n'a que des boutons, comme ça arrive, je crois, c'est à Fleury-Mérogis où il y a ça, c'est assez horrible. Ça, c'est un premier point. Et du coup, j'ai oublié le deuxième. Oui, alors, quand on rentre en prison, trois choses qui... moi, qui m'étonne encore aujourd'hui, hein, pourtant, ça fait quand même quelques années. La première, c'est la vue. La vue, c'est une vue que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. C'est des barreaux, c'est... Là, par exemple, d'ici, je vois à combien? À 10 mètres, là-bas, tout au bout, il y a une fenêtre. Ça, c'est impossible en prison. Avant ça, il y aura au moins une grille. Donc déjà, l'œil, il fonctionne différemment. C'est aussi une architecture. L'architecture des maisons, des prisons de centre-ville comme Arras, comme Dunkerque, comme Béthune par exemple, c'est une disposition en forme d'étoile. Et tout est fait pour que, moi encore maintenant, quand je suis dedans, il m'arrive de demander mon chemin. À l'étage. Pas au rez-de-chaussée, mais à l'étage. D'accord ? Parce que la disposition en étoile fait que je ne sais plus par où je suis passé et par où je dois passer pour redescendre. Ça, c'est pas du tout évident. Donc, la vue. Les odeurs. Les odeurs sont extrêmement importantes. Alors, il y a deux choses. Vous allez à Béthune, les odeurs, le vendredi, ça sent le poisson partout. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi pire, c'est l'absence d'odeur. Ce que je veux dire, c'est que vous allez sortir, là, il y a des pots d'échappement. En prison, il n'y a pas d'odeur. Donc, que ce soit le mois de janvier ou le mois de décembre, quel que soit le mois, c'est les mêmes odeurs. C'est quoi ? C'est très souvent l'odeur d'eau de Javel, parce que le matin, il y a le détenu qui lave les couloirs, et ces odeurs, mais c'est tout. Donc des odeurs qui sont très pauvres. J'ai même vu dans un centre de détention dans lequel il y avait des femmes, et il y avait une intervenante qui venait avec des petits flacons d'odeurs. Donc l'odeur de la rose, l'odeur de la forêt, l'odeur de la mer, pour éclairer un petit peu au niveau du nez, éclairer un petit peu les personnes détenues qui étaient présentes. Vous voyez un petit peu. Ça c'est un deuxième point. Donc j'ai dit la vue, j'ai dit l'odeur et évidemment l'ouïe. Qu'est-ce qu'on entend en prison ? On n'entend qu'une chose, des bruits de clés, des gens qui tapent sur les portes ou des surveillants qui crie. Ça, c'est pas du tout la vie de tous les jours, on est quand même bien d'accord. Donc vous imaginez un petit peu une personne qui reste un jour, une semaine, un mois, dans un monde comme ça. Et au bout d'un mois, ou un an, hein, elle sort. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je vais vous dire ce qui se passe. Moi, j'ai pris une personne comme ça au bout d'un an dans ma voiture. Déjà, à 30 à l'heure, la personne se tenait sur le pare-brise, quoi, parce que, bah oui, 30 à l'heure, l'œil n'a pas vu personne aller à 30 à l'heure pendant un an, puisque dans une prison, tout le monde marche, il n'y a pas de véhicule. Donc, vous voyez un petit peu toute la difficulté de réinsertion quand on a fait, je vous parle de un an de prison. Je vais pas au-delà parce qu'après, je vois même pas.
Et voilà, c'était l'interview de Michel Krupka, enseignant en poste à la prison d'Arras. Nous allons ensuite écouter Michel Ambeza, qui est membre de l'équipe de l'aumônerie de la prison d'Arras. Mais avant toute chose,
nous allons faire une petite pause musicale avec un extrait de X-Ville par Zach Whitefield.
A tout de suite!
Et voilà, c'était X-Ville de Zach Whitefield. Nous avons ensuite rencontré Michel Ambeza qui est bénévole dans l'équipe de l'aumônerie de la prison. Il vient chaque dimanche matin discuter avec les détenus qui le souhaitent. Il nous raconte en quoi ça consiste.
De quoi parlez-vous avec les détenus et que faites-vous avec eux ?
Bon, on les écoute d'abord. On est heureux de se retrouver. Ils sont une 15-20, ça dépend des jours. C'est le dimanche matin. Donc de 9h30 à midi, enfin 11h30, quoi. Et de quoi on discute ? Bah, d'abord, on les écoute. Ils parlent de leur vie, de leurs problèmes, leur famille, leurs enfants, des lettres qu'ils ont reçues, de leur avenir, comment ils vont, dans combien de temps ils vont être jugés. Donc maintenant ils vont sortir, ça dépend, parce que c'est fait une maison d'arrêt, là, c'est-à-dire une maison où tous les détenus arrivent là, quoi, j'allais dire. Et c'est après qu'ils sont dispatchés, suivant, par exemple, ceux que c'est très grave, ben, ils peuvent rester un an, deux ans là, et après ils partent pour être jugés dans une autre prison. Là c'est une maison d'arrêt, c'est une maison qui accueille tous les détenus, hein. Puis beaucoup les petites peines. Une petite peine qui reste 2 mois, 5 mois, 4 mois, ils sont là, En attendant, ils finissent leur peine, quoi, mais ils finissent là, à Arras.
Pourquoi est-ce que vous rendez visite à certains prévenus alors qu'ils ont été condamnés ?
On ne rend pas visite là où ils sont. C'est eux qui viennent volontairement. Il faut qu'ils fassent une démarche auprès de l'administration pour pouvoir venir.
Pourquoi ce choix ? Depuis combien de temps faites-vous cela ?
Oh, depuis 6-7 ans peut-être.
Michel a ensuite abordé la question des liens qu'il tisse avec les détenus.
Avez-vous déjà porté des jugements sur certains prévenus ?
Non, pas sur aucun jugement. D'abord, je ne demande jamais qu'est-ce qu'ils ont fait, ni pourquoi, ni... L'objectif de l'aumônerie, c'est de les écouter, d'abord, d'essayer de répondre à... Les encourager, quoi, d'essayer de leur donner une espérance, leur dire ça va venir, hein, faut pas... Hein, bon, il y a un mauvais passage, ça va s'arranger, quoi. Il ne faut pas d'espoir, quoi. C'est ça, la vraie motivation qui les aide à reprendre d'espérance.
Est-ce que vous leur donnez des conseils ?
Bah, le conseil, non, on ne peut pas dire des conseils, mais c'est toujours les encourager, quoi. Ça va s'arranger, quoi. Ce qu'il faut, c'est un peu de patience. Tu vas voir ton avocat. Tu sauras davantage où tu en es, comment ça va évoluer, parce que souvent ils sont inquiets face à l'avenir. Pour eux, il faut que ça soit un moment de vie, d'espérance. Ils sont très heureux de se retrouver ensemble. C'est un lieu de liberté, un lieu de partage, un lieu d'échange.
Êtes-vous proche de certains détenus ?
Oui, on est plus proche de certains, surtout ceux que l'on connaît... qui sont là depuis plusieurs mois.
Est-ce que vous êtes resté en contact avec certains prévenus qui ont été libérés ?
Moi, personnellement, non, je n'ai pas tellement de contact avec des anciens qui ont été libérés. Des fois, on s'est dit, bon, on s'en verra. Mais il y a d'autres personnes du groupe qui gardent des fois un petit contact. Puis des fois, certains n'aiment pas. C'est un passage qu'ils veulent oublier de leur vie, quoi. Donc, bon, ils sont sortis, mais ça leur rappellerait peut-être des mauvais souvenirs, quoi. Même si on a sympathisé entre nous, mais le fait de garder des liens, moi, j'en ai pas, et puis je crois qu'il y en a très peu, hein, mais, sauf quelques-uns.
En conclusion, nous avons demandé à Michel Ambeza ce qu'il pense de la prison.
Qu'est-ce qui vous motive à vous occuper des détenus ?
Ben, je pense que c'est un monde qui a besoin d'être aidé, d'être accompagné. C'est un peu un monde rejeté, un monde fermé, un peu sur lui-même. Tout le monde sait qu'il y a une prison à tel ou tel endroit, moi c'est à Arras. Donc c'est ça qui m'a poussé à m'engager. Faire partie d'une équipe, hein, on est cinq. Dans l'équipe de l'aumônerie de la prison d'Arras.
Et voilà, c'était l'interview de Michel Ambeza, qui est membre de l'équipe de l'aumônerie de la prison d'Arras. Pour terminer notre émission, nous allons écouter Hervé Maily, qui donne bénévolement des cours d'informatique à la prison d'Arras. Mais nous allons dès à présent faire une autre pause musicale avec un second extrait de X-Ville par Zach Whitefield. A tout de suite. Vous avez écouté X-Ville de Zach Whitefield. Pour terminer ce tour d'horizon concernant la vie en prison, nous vous livrons les propos d'Hervé Maily, formateur bénévole à la prison d'Arras, où il donne des cours d'informatique auprès des prisonniers. Il nous explique tout d'abord en quoi cela consiste. De quelle association faites-vous partie pour aller à la prison d'Arras ?
Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle le CLIP, c'est Club Informatique Pénitentiaire,
qui est une association nationale reconnue d'utilité publique. Et nous sommes à peu près 160 en France et nous intervenons dans une soixantaine d'établissements répartis sur toute la France.
Pourquoi vous vouloir être bénévole pour des détenus ?
Alors, c'est presque hasard si je suis arrivé au club informatique. Simplement, quand j'ai pensé à ma retraite, à mon activité, voulais trouver quelque chose un peu original, qui sorte de l'ordinaire, et puis aussi tourner vers l'informatique, parce que même par mon métier, je n'étais pas informaticien, mais j'aimais bien l'informatique. Donc ça a été le pur hasard, par la radio, d'ailleurs j'ai appris qu'ils cherchaient des personnes pour intervenir dans les établissements pénitentiaires, pour faire de l'informatique avec des détenus, dans le but de leur réinsertion. C'est surtout notre association est surtout orientée vers la réinsertion des détenus, c'est-à-dire une fois qu'ils sortent, pour pas qu'ils se retrouvent complètement perdus. Donc on a choisi l'activité informatique parce que l'informatique nous entoure. Dès qu'on met le pied dehors d'une maison d'arrêt, mais on se retrouve à Pôle emploi, il faut remplir un dossier, c'est par l'informatique. Et puis aussi pour tout l'environnement, on utilise l'informatique maintenant couramment. Donc un détenu qui reste détenu pendant plusieurs mois, ben, il se déconnecte un petit peu du monde extérieur et c'est une façon de le remettre au goût du jour, c'est-à-dire avec des notions d'informatique, surtout quand il n'y en a pas.
Comment avez-vous su qu'il existait des bénévoles pour aider les prisonniers à apprendre l'informatique ?
Alors justement, comme je disais, c'était le pur hasard. C'était quelques mois avant que je parte en retraite. À la radio, j'ai entendu notre délégué régional qui présentait l'association, comme je suis en train de vous le faire, et qui recherchait des bénévoles sur Béthune. Alors moi, je travaillais à Béthune à ce moment-là. Je passais devant la prison tous les jours. Ben, j'ai dit pourquoi pas, et puis je l'ai rencontré, et deux mois après, je commençais avec des détenus.
Quels étaient vos premiers rapports avec les détenus ? Ça s'est plutôt bien passé ou comment vous vous sentez la première fois que vous avez donné des cours ?
Alors quand on rentre pour la première fois dans une maison d'arrêt ou dans un établissement pénitentiaire, on est très très impressionné par le nombre de grilles, par le nombre de serrures électriques qui se déclenchent à chaque fois qu'on veut progresser. Hein. Donc j'avais regardé entre le trottoir et la salle informatique, je passais à travers 13 portes. Dont 6-7 avec des gâches électriques, un détecteur de métaux, etc. Et on a l'impression d'être comme on voit dans les films, quand on y rentre. Hein, on voit une maison d'arrêt que par l'intermédiaire d'images ou de vidéos. Et là, quand on y est vraiment, on a l'impression d'être rentré dans un film. Mais on s'habitue très très vite.
Du coup, qu'est-ce que ça fait pour vous de pouvoir rentrer et sortir librement de la prison ? Est-ce que du coup vous vous rendez compte d'avoir beaucoup de liberté par rapport aux détenus ?
Oh que oui, là c'est très très important parce que quand nous on peut sortir, quand on peut sortir évidemment, on rentre, on a envie de sortir aussi, et rentrer c'est toujours facile, hein. C'est plus facile que d'en sortir, et on apprécie de pouvoir être à l'air libre, alors que les détenus qu'on vient d'avoir, ils sont là, on les revoit la semaine suivante quoi. Mais on aime bien discuter aussi de ce qui se passe à l'extérieur, parce que aussi, quelquefois, ils sont là pour quelques mois, ils ont besoin aussi de savoir qu'il existe encore un monde qui vit à l'extérieur, et que eux, s'ils n'ont plus de liberté, ils vont la retrouver, et que il va falloir qu'ils se remettent un peu dans le bain pour pouvoir continuer à vivre comme les autres.
Est-ce que tous les détenus peuvent participer à ce projet ?
Pratiquement tous, mais on leur demande de faire une lettre de motivation. Dans la mesure où il y a une liste d'attente, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir parce que beaucoup aussi ont bien compris que leur intérêt c'est aussi de rester le moins longtemps possible dans leur cellule. Donc dans la journée, ça leur fait comme là, l'après-midi, ils viennent à l'informatique pendant 2 heures, ils sont plus en prison. Donc pendant 2 heures, ils sont devant l'ordinateur, ils réfléchissent, donc quelque part, pour eux, sortir de leur cellule, c'est très important. Ouais, donc ils rencontrent d'autres personnes, ils rencontrent des gens de l'extérieur, et puis ça leur permet, il y en a d'autres qui vont à la bibliothèque, il y a d'autres activités culturelles, et on voit tout de suite les détenus qui se réinséreront plus facilement dans la mesure justement où la moindre occasion, ils sortent de leur cellule pour s'occuper d'autre chose et pas tourner en rond entre quatre murs. Quoi.
Quels sont les horaires des bénévoles à CLIP et à quelles heures commencent et se terminent les cours d'informatique?
Alors, notre salle informatique est utilisée que par le CLIP. Donc, quelque part, on a la salle informatique disponible toute la semaine. Bon, personnellement, j'ai aussi une vie privée, quoi. Donc, c'est tous les lundis de 14h à 16h, sachant qu'on peut déborder, hein, puisque quelquefois, ça arrive, on ne voit pas l'heure passer, et puis il est 16h30, et puis je suis encore là, et puis les détenus sont encore là. Et puis, il y a une autre personne qui vient le mercredi, qui a à peu près les mêmes horaires. Mais 2 heures, c'est déjà pas mal. Pour rester concentré, 2 heures, pour certains, c'est déjà très très dur. Mais ils progressent et puis au bout de quelques semaines voire quelques mois, eh bien ils sont concentrés pendant 2 heures et pour eux c'est un sacré progrès.
CLIP cherche-t-il des bénévoles et si oui pour combien de temps?
Alors évidemment CLIP recherche des bénévoles. Alors il y a des endroits comme à la maison d'arrêt de Douai où on est pratiquement sûr d'avoir des ordinateurs, d'avoir une salle et on n'a pas de bénévoles. Par contre si on demande à une maison d'arrêt ou un établissement pénitentiaire de pouvoir faire de l'informatique, il faut aussi qu'on dise on a des bénévoles qui sont prêts à intervenir. Donc c'est pour coordonner tout ça, hein, mais on recherche toujours des bénévoles, bien sûr, et on les accueille et il y a des formations qui sont là aussi pour présenter l'association et puis faire beaucoup d'échanges entre nous, hein, de façon à ce que rassurer les gens en disant on est bénévole dans une prison, mais c'est pas nous on n'est pas en prison, quoi. Et ça peut attirer beaucoup plus de monde comme de cette façon-là.
Si quelqu'un souhaite vous contacter, avez-vous des coordonnées à lui laisser?
Bien sûr. Alors on a un site, hein, qui est, il suffit de taper CLIP déjà, hein, CLIP, et on va retomber sur le site où il y a les coordonnées à la fois de l'association à Paris qui on peut laisser ses coordonnées et c'est retransmis automatiquement au niveau régional, quoi. Donc le mieux c'est de faire de cette façon-là, c'est d'aller sur le site et puis de laisser ses coordonnées, c'est après on recontacte la personne. Mais ce sont des personnes, des bénévoles qui ont tout âge. La nouvelle personne qui est arrivée en fin d'année, c'est une enseignante qui est libre que le mercredi d'ailleurs. Hein, donc quelque part, c'est pas que des retraités. Certes, les retraités sont censés avoir un peu plus de temps, mais il y a aussi des personnes en activité qui viennent rejoindre les bénévoles pour intervenir au sein du CLIP.
Nous avons ensuite questionné Hervé Mailly sur son rapport aux détenus. Mais du coup, c'est quoi l'état d'esprit des détenus? Comment ils se sentent intérieurement face à tout ça et qu'est-ce qu'ils pensent de cette association?
Bien, parler, ça fait 12 ans que je fais ça, donc par les remerciements que je reçois, je suis encore en correspondance avec un détenu qui est sorti depuis très longtemps, qui s'est inséré dans la vie, qui a une épouse, des enfants, un métier, que j'ai connu il y a 12 ans, en maison d'arrêt, et qui tous les ans m'envoie ses vœux, ou il m'appelle, et puis on discute un petit peu de ce qui se passe, et par le nombre aussi de remerciements que certains détenus me laissent quand ils sortent, quand ils sont... ou qui sont mutés dans une autre prison, ils laissent un petit mot pour me remercier. Je pense que c'est ça notre récompense, c'est de savoir que en faisant cette activité-là, on leur a rendu service et qu'ils en apprécient d'autant plus qu'on est bénévole. On n'est pas payé, on n'est pas obligé de venir. Ils sont fort étonnés que des bénévoles viennent jusque en maison d'arrêt, en maison de détention, pour simplement leur faire de l'informatique. Donc ils apprécient beaucoup. C'est bien pour ça qu'en 12 ans, j'ai jamais eu un seul problème avec un détenu. Parce que justement, ils se rendent compte, malgré tout, il y a des caïds, il y a des gens qui sont là pour plusieurs années, quelquefois pour quelques mois, mais tous reconnaissent que ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt, c'est pour leur bien, et quelque part, ils nous le redonnent bien, la façon dont ils se comportent, sont toujours très polis, ils sont toujours très... très, très sympathique et puis on a envie de revenir.
À la fin de cet échange, Hervé Mailly nous a donné son opinion sur la prison. Du coup, est-ce que vous trouvez que les détenus ont des mauvaises conditions d'incarcération?
Je suis pas là pour juger, parce qu'à partir du moment où un détenu est dans une cellule, il est certain qu'il préférerait être ailleurs que dans cette cellule-là. Mais il faut reconnaître que la vétusté des établissements aussi, tout au moins ceux que je connais, ceux de Béthune et ceux d'Arras, fait que ils sont détenus dans de mauvaises conditions aussi. Le surpeuplement des cellules, moi je le constate régulièrement, hein, d'après le nombre de détenus qu'il y a à la prison par rapport au nombre de places, et justement cette envie de sortir de la cellule à tout prix, parce que aussi il y en a qui, cellule de 4, et bien ils sont quelquefois 5 voire 6, et quelque part 6 personnes qui tournent dans quelques mètres carrés, ça peut que provoquer des problèmes, quoi. Donc on constate en effet les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils n'hésitent pas à en parler d'ailleurs, quoi.
Maintenant, nous laissons la parole à Monsieur Krupka sur ce qu'il aimerait vous faire part, à vous, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous écoutent ?
Ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que, en fait, la prison, faut pas y rentrer. Que la réinsertion ne peut pas exister en l'état. La réinsertion, non. La restructuration de la personne, peut-être. Mais en tout cas, pas la réinsertion. Faut que ce soit bien clair. Que la formation, c'est tout au long de la vie. Qu'elle ne s'arrête pas à 18 ans ou à 20 ans. Ou à 30 ans ou à 40 ans. Qu'il y a une chose qui peut réguler tout ça, c'est une passion. Que ce soit la pêche à la ligne, que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit n'importe quoi, mais une passion qui permet en fait d'équilibrer une vie qui risque fort d'être assez difficile pour les jeunes d'aujourd'hui.
Alors, si je comprends bien, vous ne croyez pas à la réinsertion ? C'est pourtant quelque chose dont on nous parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là ?
Derrière la réinsertion, j'y mets au moins deux choses. Pour être véritablement inséré, il faut une vie familiale et un travail. Aujourd'hui, vie familiale, ça pose pas de problème. Le travail pose un réel problème pour les jeunes aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais de passion il y a deux minutes. C'est ce qui permet, en cas de non-travail, en cas de chômage, de pouvoir sortir la tête de l'eau quand même, en étant soit dans le secteur associatif, je pense une harmonie par exemple, je veux dire, ou autre, hein, du tuning, parce que je sais que beaucoup de personnes détenues sont intéressées par le tuning. Voilà, quelque chose d'autre. Et donc, en tant qu'enseignant, s'il n'y a pas de boulot, c'est pas de ma faute. Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'économie qui fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la réinsertion, j'y crois pas.
Et maintenant, nous vous laissons avec un dernier extrait de X-Ville par Zach Walfield.
Let's roll, let's get out of X-Ville. Take stock of what they say. Sky is so much clearer on the other side anyway.
C'était X-Ville de Zach Walfield.
Nous revoilà, chers auditeurs, pour clôturer cette belle émission.
Nous avons pu découvrir grâce à toutes ces interviews certaines activités au sein de la prison qui sont possibles grâce à l'investissement de personnes comme celles que nous venons d'entendre.
Ceci dit, les rencontres que nous avons faites nous ont amenés à nous poser d'autres questions. Quand Michel Krupka dit que la prison est l'école du crime, pour certains détenus, on peut s'interroger sur ce à quoi sert la prison. Est-ce que la prison est vraiment la meilleure solution pour changer le comportement d'un délinquant ?
Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis lors de cette émission riche en découvertes. Nous vous laissons sur un extrait de Breaks the Lies par Tiger Berry. À bientôt.